c'est Patrick Dabas. Venez donc prendre l'air avec les ailes anciennes. Je vous y invite sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse.
Bonjour à tous les amis fidèles aux petites histoires de la grande aviation. Dans cette seconde tentative de Marcel Doré sur Paris-Tokyo, le départ se passe sans problème, malgré un décollage à la limite de la masse maxi. Dans son récit du voyage, Doré insiste lui aussi sur la fatigue et la soif en même temps, sur les difficultés avec la radio. L'arrivée à Hanoï et l'atterrissage sont difficiles, mais ils se rendent compte qu'ils ont battu le record de vitesse avec passagers sur le parcours. Après le ravitaillement destination Tokyo et, à l'approche, ils sont à moins de 500 km de Tokyo, mais dans un temps épouvantable, lorsqu'ils entendent à la radio le capitaine d'un bateau indiquant qu'en mer, il ne voit pas l'avant de son navire. Les aviateurs décident vite de se poser, quitte en catastrophe, le plus vite possible et repèrent une petite plage qui peut faire l'affaire. Le toucher des roues sur la plage est correct, mais au fur et à mesure que l'avion roule, il s'enfonce et bascule et culbute. Il commence vite à être envahi par l'eau. Aidés par des pêcheurs témoins de la scène, ils sont dégagés, tandis que la mer se charge d'attaquer l'épave. Doré est indemne, ou presque. Mickey est profondément blessé à une main, mais ils sont saufs. À l'hôpital, ils sont soignés et relatent la même gratitude et la chaleur de l'accueil que leur font les Japonais, qui est le même que celui qu'ils ont fait à Japy. Et ils vont encore ensuite être rapatriés à Tokyo, non sans problème, puisqu'une petite anecdote fixe bien les difficultés. Un avion japonais qui devait les ramener dans la capitale doit renoncer à prendre l'air du fait des perturbations persistantes. En définitive, ils y arriveront, devinez, en train. Cet échec relatif pour Doré disparaît pratiquement noyé par les autres raids réussis et l'extraordinaire carrière de ce glorieux pionnier. Si le Simoun ne lui a pas toujours porté bonheur, son nom est surtout attaché à toute la production de Dewatin, dont il fait le brillant pilote d'essai. Pour faire le point sur le Caudron Simoun et depuis 10 semaines donc avec ce support d'un avion d'avant la Seconde Guerre mondiale, plus la complicité tacite de certains de ceux qui l'ont piloté et accompli avec lui les exploits, j'ai évoqué une période très importante de l'aviation légère lors des années précédant la Seconde Guerre mondiale. On verra plus tard que cette guerre, si elle a arrêté nombre de projets d'évolution de cette aviation légère pour quelques années, a pu, en revanche, faire de grands progrès techniques avec les chasseurs, les bombardiers, les avions de transport de troupes. Elle a ouvert les portes à l'aviation moderne à partir de la libération et avec la paix retrouvée. L'avenir montrera alors l'évolution des moteurs en puissance, en rendement, des hélices à pas variable électrique, des trains d'atterrissage escamotables, des équipements de navigation pour l'aviation civile et sa démocratisation. Dès le premier volet de cette série sur le Simoun et ses pilotes, je vous avais souligné que, pour ma part, celle de l'association et celle de nombre d'associations, nous avons tous une même préoccupation, une même obsession, le patrimoine. Attention, il ne faut pas mettre ce mot de patrimoine à toutes les sauces et simplement le ressortir une fois de temps en temps, un rendez-vous annuel ou plus souvent peut-être. Et parler de patrimoine, ce n'est pas seulement en faire un événement, mais bien le vivre au quotidien. Alors, bien sûr, on ne peut pas être partout. Il faut de nombreux acteurs et dans les domaines très différents, parfois ignorés ou mal identifiés. Chacun doit faire connaître son sujet particulier aux autres, pas toujours conscient de ce sujet particulier, quand bien même il serait sensible de façon plus globale, plus générale à la notion de patrimoine. Le patrimoine, c'est le passé, éloigné ou plus récent. C'est les gens, les coutumes, les traditions, les langues, les enregistrements de voix dans des discours, les monuments, les outils, les machines, l'histoire donc. Ce Caudron Simoun que j'ai retenu m'a paru pouvoir illustrer par le récit la démarche de conserver le témoignage matériel de l'énumération que je viens de faire, un avion, des femmes et des hommes brillants, des pilotes, des ingénieurs, des politiques, des sacrifices, des leçons de courage à immortaliser, soit en les conservant matériellement, soit en les figeant dans des récits, dans des photos ou dans des enregistrements vocaux. La difficulté est qu'il faut une grande ouverture d'esprit car il y a beaucoup à accepter, à comprendre. Au-delà d'une définition du patrimoine généralement acceptée, il y a des domaines. Et là, tout se complique. Y a-t-il des bons domaines et des pas bons? Dans ce dernier cas de domaine pas bon, ce serait donc inutile, compliqué et coûteux. Les remarques du genre « à quoi ça sert, y a mieux à faire, c'est ringard » sont acceptables, mais il faut laisser ceux et celles qui défendent une idée s'en occuper et ne pas les en empêcher. Ces exploits étaient le fait de pilotes civils sur des avions civils. Il faut cependant préciser que sur nombre total de 6 moons produits, qui n'est pas bien cerné, un bon nombre est à relever dans la production de la version militaire. Cette version est identifiée dans la désignation par la lettre M après le nom du modèle, c'est-à-dire 6 moon C635M pour la plupart. Le ministère de l'Air s'est intéressé assez tard à cet avion dont les caractéristiques générales, notamment les dimensions et les usages possibles, devaient a priori lui convenir. Mais il faut bien reconnaître qu'au-delà d'exploits ponctuels, même s'ils étaient retentissants, le faible nombre d'avions produits et leurs propriétaires civils ne donnaient pas beaucoup d'indications sur les possibilités d'opération dans le domaine militaire, et notamment la reconnaissance et l'observation. Sur cet aspect d'expérimentation insuffisante en régime classique, usuel mais aussi intense, l'adoption par la compagnie Air Bleu du 6 Moon laisse entrevoir que c'est à la suite d'études sérieuses que des professionnels responsables ont retenu cet avion et que l'usage intensif qu'il est prévu d'en faire plaide en faveur du choix d'un avion mis aux spécificités de l'armée de l'air. Spécificité des armées d'ailleurs, puisque cet avion ne laisse pas l'aéronautique navale indifférente. Une première commande de l'avion version militaire C-135M est passée par le ministère de l'Air et deux appareils sont à ajouter pour le ministère de la Marine et affectés à la Marine navale. En effet, l'air et la mer n'avaient pas le même commandement et cette dualité peut étonner, mais à l'époque, n'était pas encore résolue. Le ministère de l'Air n'avait été créé qu'en 1928. Le ministère des Armées regroupant le ministère de l'Air et le ministère de la Marine n'intervient qu'en 1947. Par essence, les faits et gestes des militaires sont, sinon secrets, du moins discrets, et de toute façon moins exposés sur la place publique que tous les exploits que nous avons vus précédemment. Il y a peu à relater sur les 6 moons militaires d'avant la déclaration de guerre, autrement que les différentes commandes supplémentaires, les modifications et les aménagements demandés et de nombreuses difficultés pour les livraisons du fait de problèmes d'approvisionnement, principalement en hélices ratiers métalliques, accessoires de train et roulettes de queue. Je disais que le nombre total de 6 moons produits n'est pas bien cerné. Il y a eu, en fait, un peu moins de 100 avions civils. Ce n'est pas rien si on considère que le début de l'aviation populaire n'est pas encore très éloigné, que cet avion quadriplan, plutôt luxueux et cher à l'achat, n'est pas à la portée de beaucoup d'aviateurs. Mais lorsque le gouvernement s'est décidé à demander une version militaire, tout change. Avec plusieurs commandes successives en quelques mois, c'est près de 600 commandes d'avions que le constructeur a reçues. Cela posait d'ailleurs un problème de logistique pour assurer une cadence de production, pour assurer des livraisons rapides. Divers constructeurs, fournisseurs et ateliers ont été sollicités et retenus à cet effet. Après un démarrage de production assez lent du fait de modifications ultimes apportées, des difficultés d'approvisionnement, notamment en hélices ratiers métalliques et en appareils de radio, les livraisons s'accélèrent, en même temps que la pression sur le constructeur pour augmenter la cadence se précise. En raison de la tension internationale et des menaces proches de nos frontières de l'Est du pays, les besoins de reconnaissance et bientôt de photos de mise en place de moyens d'attaque et d'invasion potentiels se font de plus en plus précieux et les 6 moons se révèlent très bien adaptés à ce service. À la déclaration de guerre et dès le mois de septembre 1939, la plupart des 6 moons militaires sont réquisitionnés, y compris la plupart de ceux qui avaient été affectés à l'école, et sont intégrés dans des unités légères de campagne, alors en formation. Ces unités seront baptisées Section Avions Légers et désignées en SAL, S-A-L, avec une numérotation. Les avions de ces SAL effectueront des missions souvent appelées estafettes, pour transporter des officiers d'état-major, des lettres d'ordre ou du courrier. D'autres Simoun rejoindront d'autres modèles pour être regroupés en SAS. SAS, section d'avions sanitaires, pour des évacuations du même nom. En raison de nombreux atterrissages sur des terrains difficiles et souvent boueux, les carénages de roues dont ils sont dotés à l'origine sont parfois démontés, en même temps que des amortisseurs plus faciles à vérifier et à entretenir sont installés. Quelques mois après la déclaration de guerre, sur les 643 commandes recensées, 519 appareils militaires auront pu être produits et réceptionnés par le CRAS, le centre de réception des avions de série. Bien évidemment, pour l'armée et surtout en 1939, il n'était plus question de raid ou d'exploit. Le Simoun est utilisé en fonction de ses atouts, c'est-à-dire la disponibilité et l'aspect confort pour des déplacements degradés ou des transports rapides et la reconnaissance aux abords des frontières et des relevés et photos. On va même voir certains de nos beaux avions en tenue camouflée, avec des peintures de ton, bandes claires sur fond foncé et même parfois plutôt zébré, faisant penser à un travail vite fait à la va-vite. Je reviendrai à nouveau sur les utilisateurs et les nombreux usages faits de ce merveilleux petit avion que la firme Caudron mettait en évidence avec une magnifique affiche publicitaire reprenant la plupart des exploits en instituant l'avion de France. Une expérience très intéressante va être mise en place pour le quotidien des Français et la communication. Je vous en parle la prochaine fois. À bientôt sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse.
Altitude FM.